Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Bienvenue mesdames et messieurs dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service et ravi de vous retrouver dans ce programme. Nous allons parler de l'industrialisation de la RDC, comment promouvoir cela. Monsieur Julien Paluku, ministre de l'Industrie, est en ligne. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service, qui va parler, qui s'intéresse à la promotion de l'industrie dans notre pays. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tatim Apoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Claude Yala, la mise en onde au micro, c'est jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission. La semaine annuelle de l'industrialisation s'est clôturée le 6 août dernier à Kinshasa, initiée par la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Cette rencontre visait la promotion des nouvelles opportunités pour le commerce et l'investissement intra-africain. En effet, les pays membres sont invités à transformer localement les produits de l'agriculture, valoriser les ressources minérales et créer des chaînes de valeur au niveau régional. Alors tout cela dans le but de favoriser la croissance économique. Alors comment promouvoir l'industrialisation dans notre pays? Après cette rencontre, nous avons en ligne le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga. Monsieur le ministre, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette émission. Alors qu'est-ce qu'on, dans quel but, quelle était la motivation pour l'organisation, je veux dire, de cette rencontre de la semaine annuelle de l'industrialisation ici en RDC?
Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien introduit, c'est la sixième semaine annuelle d'industrialisation pour montrer que ça fait 6 ans que les pays membres de la SADC ont décidé d'organiser chaque année et dans les différents pays une semaine consacrée aux réflexions sur l'industrialisation de la région SADC. Pourquoi? Parce que le constat qui est ressorti de toutes les analyses, c'est que tous les pays de la SADC, y compris beaucoup de pays africains, ne font qu'importer les produits pour lesquels ils disposent des matières premières. Tout le monde sait que nous importons des produits alimentaires, nous importons du sucre, nous importons même de la farine, nous importons des médicaments, nous importons de... Donc tous ces produits-là que nous importons font l'objet de réflexions pour que désormais on commence à les transformer au niveau local. Et c'est ainsi que les 16 pays membres de la SADC ont dû adopter un protocole sur l'industrie en 2019 auquel tous les pays sont en train d'adhérer. Et la RDC vient d'adhérer à ce protocole en 2021. D'ailleurs, c'était moi-même qui était convié à ce sommet en 2021 à Lilongwe, au Malawi, où, après l'adoption par le Conseil des ministres, nous sommes allés effectivement adhérer au protocole de la SADC sur l'industrie pour que la RDC également soit dans la même moule, dans la même réflexion comme tous les autres, de manière à promouvoir l'industrie par l'agro-transformation, c'est-à-dire la transformation de nos produits agricoles pour que nous cessions de les importer et ainsi de sortir nos capitaux vers l'extérieur. Voilà donc la stratégie globale telle que cela a été adopté par tous les pays membres de la SADC.
Bien, on a toujours appris que la RDC, jusqu'à la preuve du contraire, importe, vit beaucoup de l'importation, surtout les produits alimentaires, agroalimentaires. Quelle est la stratégie adoptée aujourd'hui pour inverser la tendance?
Oui, la stratégie que le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président de la République, a pu adopter, c'est la création effectivement des zones économiques spéciales. On en a parlé dans beaucoup d'autres émissions. Mmh. Ce sont des zones, des espaces à l'intérieur desquels effectivement le gouvernement congolais crée des conditions incitatives pour les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, de manière à leur permettre de pouvoir investir sans paiement de beaucoup de frais. Je vous donne l'exemple, si c'est à Maluku ou ailleurs, lorsqu'un investisseur choisit d'investir dans une zone économique spéciale, il ne paye pas de taxes pour tous les matériels qu'il va importer pour construire son usine dans la zone. Et donc ça, c'est une manière de permettre à ce que on facilite les investissements à moindre coût pour que les produits qui vont sortir de cette zone économique spéciale soient beaucoup plus compétitifs. Surtout qu'il y a des opportunités que nous devons saisir. La première, c'est la ZLECAF, l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Ça va ouvrir les frontières de tous les pays africains. La deuxième, c'est la SADC, qui est notre région de 16 pays. La troisième, c'est la CEAC, la région d'Afrique centrale. La quatrième, c'est la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle nous venons d'adhérer il y a quelques temps. Et donc, si nous, au niveau interne, il n'y a pas une politique industrielle incitative, une politique industrielle attractive, eh bien, comme je l'ai dit souvent, ce sont les autres qui vont nous considérer comme leur marché. Et nous, on n'aura pas de marché à gagner dans cet espace africain. Donc, la stratégie congolaise donc a été de mettre en place ces zones économiques spéciales pour attirer les investissements à l'intérieur de ces espaces, parce qu'il y a une production hors taxe pour rendre les produits plus compétitifs et au niveau interne et au niveau régional, sous-régional et même international. Donc voilà la stratégie congolaise qui a été adoptée. Et donc au niveau de notre pays, la deuxième stratégie, c'est que avec notre collègue de l'agriculture et du commerce, nous avons essayé un peu de lister l'ensemble des filières qui peuvent être industrialisées. Je vous ai cité certaines. Il y a par exemple le cacao que nous devons industrialiser pour la production du chocolat et ainsi nous empêcher de continuer à importer le chocolat, je ne sais pas, de la France ou de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Deuxième filière, le café que nous devons industrialiser. Vous savez que nous détenons le café, le meilleur café du monde. Aujourd'hui aux États-Unis et partout en Europe, c'est le café du Kivu qui est consommé. Parce que les caractéristiques de ces cafés-là font qu'ils deviennent les meilleurs. Mais on n'est pas encore à la phase de la production industrielle de ces cafés-là. Troisième filière, ou quatrième, c'est l'industrie paysicole. Je sais qu'au moins chacun de nous ici, ou dans chaque famille, ou au moins dans la plupart des familles, on consomme du thé. Mais les petits sachets du thé nous proviennent de l'extérieur. On les importe, je ne sais pas d'où, du Japon, de la Chine, etc. Alors que nous avons des bassins de production théicole sur l'ensemble de la République. Dans l'espace Katanga, dans l'espace Kivu, au nord de la province nord Kivu, à Boutoué, partout là-bas, nous avons recensé tous ces bassins de production théicole pour réindustrialiser la filière théicole. Nous avons une cinquième filière, c'est par exemple la peau. Lorsque vous allez dans les Kivu, dans l'Ituri, avec tous les bétails que nous avons, les cheptels bovins, ces bovins sont abattus, toutes ces peaux-là sont jetées, alors que on peut créer une industrie du cuir. Et donc, au niveau du ministère de l'industrie et de l'agriculture et de l'élevage, nous avons listé et retenu cette filière de l'industrie du cuir comme une des priorités. Une autre filière que nous allons industrialiser, c'est l'industrie textile. Voyez-vous, dans l'espace du Bas-Ouélé, comme dans l'espace du Haut-Ouélé et de l'Ituri, il y a la production du coton. Mais aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui prend tous les cotons produits en RDC pour aller nous fabriquer des produits textiles, des habits, et venir nous les revendre à la République démocratique du Congo. Et donc, la filière là aussi a été listée pour que nous puissions relancer la Sotex qui est à Kinshasa, à Kisangani. Et d'ailleurs, il y a un dossier qui est dans le pipeline au niveau de la commission ECOFIN, que nous allons présenter au niveau du Conseil des ministres, pour devoir présenter la relance de la sauté ski à Kisangani, pour que nous commencions à produire, nous ici, au niveau de la RDC, tous les produits ici de l'industrie textile. Donc il y a beaucoup de filières qui sont concernées par la réindustrialisation du pays. Mm-hmm. Je n'ai pas oublié les forêts. Avec la ministre, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, nous sommes sur la création des zones économiques spéciales dans le traitement du bois, comme celle qu'on a visitée dans la zone économique spéciale d'Nkok à Libreville, pour que, à la suite de la décision d'interdiction d'exportation de grumes, nous puissions traiter notre bois localement de manière à offrir et aux Congolais, et à l'Afrique, et au monde entier, les bois traités par les meubles, par les armoires, par les lits, par tous les produits ici du bois traité, et ainsi cesser de consommer les produits importés après avoir exporté des milliers et des milliers de tonnes de nos grumes qui ne nous servent pratiquement à rien. Donc toute cette philosophie-là a pour objectif d'aider notre économie à être résiliente, d'aider notre produit intérieur brut à augmenter davantage et ainsi permettre que l'État puisse passer des budgets minables de 10 milliards, peut-être à l'horizon 2030, à un budget de 30, 40, 50 milliards. Voilà plus ou moins la stratégie ainsi résumée.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Héritier nous appelle de Bounia. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bon, je voudrais en fait parler concernant ce que le ministre vient de nous dire. C'est tout à fait normal parce que nous consommons beaucoup d'argent en important du sucre, tout ce que nous avons, alors que nous en avons nombreux. Alors, qu'en est-il pour la transformation de canne à sucre pour nous produire du sucre? Est-ce que ce programme-là, le ministre pourra quand même faire quelque chose pour que nous nous souhaitions de produire, d'importer du sucre en Ouganda? Nous avons des cannes à sucre ici qui sont là, mais nous sommes là et nous continuons à importer du sucre de l'Ouganda.
D'accord, merci Héritier. On a compris. Voilà bien, on a compris. Qu'en est-il, monsieur le ministre, de la transformation des cannes à sucre pour produire localement du sucre et arrêter d'importer le sucre de l'Ouganda? C'est la question d'Héritier depuis Bounia.
Oui, la question est bienvenue. Je voudrais les rassurer que déjà au niveau du ministère de l'Industrie, à travers les fonds de promotion de l'industrie, nous avons pu apporter un financement à l'ancienne sucrerie de Kiliba, qui est située au sud Kivu, et qui a déjà commencé sa première production avec l'encadrement de plus de 1600 producteurs de canne à sucre dans l'espace de Ouvira et environ. La deuxième stratégie de la réinitialisation du secteur de production du sucre, c'est la sucrerie de Lotokila à Kisangani. Nous avons déjà reçu une lettre d'intention des partenaires qui veulent relancer la Lotokila à Kisangani de manière à couvrir tout l'espace province de la Tchopo, province de Haut-Uele, province de Lituri et toute une partie de la province du Kivu. Il y a à Kwilungongo dans l'espace ouest ici qui est en train d'être relancé par sa production. Et donc nous sommes sur ces filières là. Et avec l'avènement des produits Pepsi, Pepsi-Cola, qui vont s'installer aussi bien à Kinshasa qu'à Lubumbashi, nous aurons une forte demande de 100 000 tonnes de sucre par seulement cette entreprise-là, ce qui nous a amené à très rapidement appeler les gens de Kwilungongo et de Lotokila pour qu'on relance les sucreries qui sont déjà opérationnelles ou qui étaient en arrêt, de manière à offrir un marché disponible. Parce qu'au moins, avec l'avènement de Pepsi-Cola en RDC, nous aurons une demande de près de 100 000 tonnes de sucre, ce qui motiverait les investisseurs à se rassurer du marché disponible. Donc, je voudrais donc les rassurer que Lotokila, Kwilungongo et Kiliba sont déjà relancés ou en voie d'être relancés dans la perspective de devoir faire face à ces importations qui nous viennent des pays qu'il a cité tout à l'heure.
Et pour relancer ces entreprises, il faut un financement. Est-ce que le FPI, le Fonds de promotion industrielle, facilite, disons, a assoupli les conditions pour permettre aux investisseurs congolais de pouvoir disposer des fonds et relancer leurs activités?
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour la sucrerie de Kiliba, qui s'appelle aujourd'hui sucrerie de Kivu, elle a bénéficié des financements du FPI, du notaire, je ne peux pas ne pas le dire, de près de 5 millions de dollars. Ce n'est pas que c'est ces 5 millions qui ont la relance de toute la sucrerie, mais au moins ça a été un appui à l'opérateur économique local qui avait investi ses propres moyens. Mais pour l'Otokila, au niveau de Kisangani, nous avons un partenaire qui, lui, va investir 100% des capitaux sans même demander l'appui parce qu'il sait qu'il y a un marché potentiel dans ces espaces-là tels que je viens de les citer. L'ex-province orientale et les provinces du Kivu, c'est un marché important et donc nous sommes déjà en pourparlers avec cet opérateur qui veut venir investir 100% des capitaux pour la relance de la sucrerie de l'Otokila à Kisangani et ainsi relancer la production au niveau des producteurs locaux qui seront encadrés, plus d'un millier de producteurs locaux qui seront encadrés en dehors de la concession de la Lotokila qui va commencer à produire des sucres qui seront traités par l'usine. Donc, nous sommes dans les pipelines. En dehors de ces sucres, comme j'ai dit, il y a beaucoup de filières telles que je les ai citées qui sont concernées par la réindustrialisation. Et ici, 2030-2035, je vois que la RDC va être parmi les plus grands pays industrialisés à côté de l'Afrique du Sud qu'il est déjà, ou le Nigeria, ou d'autres pays comme en Afrique du Nord, l'Égypte, etc. Donc 2030-2035, je suis certain que la RDC sera parmi les pays africains les plus industrialisés.
Bien, on va accueillir Glody de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à monsieur Julien Paloukou et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'industrialisation de la RDC?
Oui, merci pour l'accord accordé. Je pense que je suis très content avec monsieur le ministre parce qu'il a trouvé des décisions qui sont vraiment importantes, mais moi j'aimerais juste peut-être passer directement aux questions. Monsieur le ministre, Espérance, vous pensez qu'avec des théories, on peut développer ces pays? Je ne sais pas. Vous êtes à la tête du ministère de l'Industrie. RDC exporte combien de tonnes dans les secteurs agricoles? De quels produits, par exemple, vous pouvez nous citer dans les secteurs agricoles que RDC exporte au niveau de autres pays? Si vous pouvez nous quantifier ça par an, on peut exporter combien? Parce que, généralement, c'est sûr, depuis que moi, personnellement, je connais, l'RDC n'exporte absolument rien sur le secteur agricole. Je ne sais pas si vous pouvez nous citer quelques produits que l'RDC exporte, par exemple. Par exemple,
merci.
À l'époque de Mobutu, vous allez se rendre compte que RDC était parmi les pays les plus producteurs du coton. Mais aujourd'hui, dans les classements internationaux, on n'existe presque pas. Je ne sais pas si...
Oui, mais Glody, avant d'exporter, il faut produire, il faut commencer par produire.
Oui, ça on ne refuse pas. Moi, je suis d'accord avec Excellence de ce qu'il est en train de dire. Mais il est purement théorique. Moi, mon souci majeur, c'est qu'il puisse être pratique. Depuis qu'ils ont lancé ces projets-là, ils ont déjà inauguré combien des industries de transformation dans les secteurs agricoles? Où sont les champs de production? Parce que on peut pas transformer sans toutefois produire.
D'accord.
C'est préalable par la production.
D'accord.
Et par là, vous allez transformer.
Merci Glody. Merci Glody, qui veut savoir, depuis la création des six zones économiques, qu'est-ce qu'il y a déjà de concret, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui s'est fait déjà?
Oui, moi je crois qu'au niveau du gouvernement, nous travaillons en synergie. Le ministère de l'Industrie n'est pas seul. Vous vous rendrez compte que la question qu'il vient d'évoquer relève du ministère de l'Agriculture, la production agricole. Et il y a quelques temps, effectivement, au niveau de ce ministère, on a organisé les états généraux de l'agriculture pour essayer un peu de faire l'état des lieux, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je peux vous dire que même si la question pour lui n'est pas connue, la RDC, à la date d'aujourd'hui, passer la PAC qui est chargée d'évaluer les exportations en matière
agricole. Il y a quelques soucis au niveau de la communication, monsieur le ministre. Je vais peut-être vous demander de bouger un tout petit peu, peut-être que ça peut améliorer les choses.
Oui, allô, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez.
Allez-y, maintenant c'est bon, c'est clair maintenant.
Oui, je disais que la question qu'il a évoquée relève d'une stratégie transversale entre les ministères de l'agriculture, celui de l'industrie, celui de l'élevage et beaucoup d'autres ministères. Et donc, parlant des exportations, je crois qu'il faut qu'il consulte bien l'ONAPAC, qui est cet organisme-là qui relève du ministère de l'agriculture, qui essaie un peu de recenser les exportations de la RDC. Je dois affirmer que, à la date d'aujourd'hui, nous exportons du cacao, nous exportons du café, nous exportons du EVA. J'ai été moi-même dans le sud d'Ubangi, à Gwaka particulièrement, où il y a une plantation de production d'EVA en vue de la production de latex, et après latex, les caoutchoucs, etc. Alors, toutes ces productions-là qui sortent de la RDC, la stratégie, c'est de les empêcher de sortir à leur état brut. C'est-à-dire, nous voulons promouvoir leur transformation. Et donc, s'il se rend dans le sud d'Ubangi, il va trouver qu'il y a une zone économique spéciale Miluna où on commence déjà la transformation au niveau local. S'il se rend ici à Kinshasa et dans l'espace Katanga, il va se rendre compte qu'on a commencé petit à petit quelques transformations, mais ce n'est pas encore assez, et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par évoquer la stratégie de mise en place des zones économiques spéciales. Tout ce qu'il doit savoir, c'est qu'un pays ne se développe pas sur une année, sur deux ans, sur trois ans. C'est une stratégie que nous avons mise en place sur les 10 années à venir. Donc d'ici 2030-2035, eh bien, on peut commencer à évoluer, à évaluer les politiques publiques que nous avons mises en place. Mais dire que déjà à une année, nous allons avoir toutes les industries fonctionnelles avec des exportations qui reprennent sans qu'on ait stimulé la production, comme vous l'avez dit, eh bien, ça sera comme si on ne fait rien. Mais il faut qu'il soit apaisé, il faut qu'il observe la stratégie telle qu'on est en train de la dérouler et nous évaluer 5, 10, 15 ans après, parce que même la Chine qui a commencé ses zones économiques spéciales en 1979, entre 79 et 80, c'est vers les années 2000 que l'industrie chinoise a commencé à être florissante. Donc, il faut qu'on se mette dans une perspective de planification à court, moyen et long terme pour commencer à évaluer les politiques publiques. Mais au moins, ce qui est important, c'est que nous avons commencé, et je le répète toujours, pour commencer, il faut commencer. On accompagne la stratégie du gouvernement. D'ici 5-10 ans, chacun se rendra compte qu'il y a une planification qui avait été mise en place par le gouvernement.
Bien, on va accueillir Étienne Demahagui. Bonjour.
Daniel, bonjour à monsieur l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup pour ce choix du thème très pertinent. Oui, monsieur l'invité, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt quand vous étiez d'évoquer les différents plans au début de l'émission. Monsieur l'invité, dans ce pays, on a déjà beaucoup assisté à des paroles, à des promesses, mais qui ne tiennent pas. Alors, concernant tous ces plans que vous venez d'évoquer, à quand leur matérialisation? Dans combien d'années, par exemple, on commencera à transformer le café ou le coton ici dans notre pays? Je prends l'exemple du territoire de Mahagui ici. Comme on reste avec quelques 2 mois, et Mahagui produit beaucoup de café et aussi le coton dans la chefferie des Angales. Mais tous ces produits-là, malheureusement, prend la direction de l'Ouganda, que ce soit le coton ou le café. Alors, à quand votre matérialisation de vos plats qui semblent être aussi la bonne? Merci et bonne continuité.
Bien, merci. Justin Kalabia de Bounia, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour au ministre de l'Industrie, Gilbert Panouko.
On vous écoute.
Merci, monsieur Jody, pour le thème ce jour. Néanmoins, notre pays, nous avons beaucoup de chefs ce jeudi. Mais nous manquons en tout cas les industries. Peut-être comme le ministre est là, c'est lui qui va peut-être changer. Malheureusement, c'est un projet à long terme. Il dit en 2030, 2025. Donc je m'imagine que c'est en tout cas un projet à long terme, hein, mais avec l'état de aller aussi avec la grâce de Dieu, ça va aller. Oui, M. Jody, en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de richesses. Mais nous, jusque-là, nous dépendons toujours des pays étrangers. Donc, tout ce que nous consommons, nous importe. OK? Donc, et aussi, nous avons beaucoup de taxes à la République démocratique du Congo. Si un opérateur économique qui commence, crée soit une activité, ou bien amène soit des machines, mais allez voir maintenant combien de taxes que cet opérateur, il va même se décourager, il peut fermer même ses activités pour aller créer même à l'étranger. Mais je demande peut-être au ministre, quand il y a quelqu'un qui initie une activité, il faut le soutenir. Il faut le soutenir afin qu'il trouve quand même des espacements, il trouve une base, et c'est là où peut-être l'État peut commencer à avoir à taxer. Lorsque l'État commence à taxer un opérateur économique qui lance ses activités commerciales, vous voyez que ça peut peut-être aussi décourager. Oui, et à ce qui concerne aussi la transformation, je connais déjà, c'est comme dans différents territoires, y compris ici à Bounia, aujourd'hui, vous allez voir, les gens qui produisent, par exemple, certains habits, même si aujourd'hui, allez voir les taxes, et puis ces gens se découragent. Et merci, et aussi, je demande au ministre que ça ne soit pas une théorie.
Bien, merci Justin. D'accord, merci Justin pour cette intervention. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, je remercie monsieur Étienne de Mahagui, monsieur Justin de Bounia. Je comprends la passion qu'ils ont pour le Congo. En fait, si le pays, la RDC, a traîné effectivement à attirer des investissements, c'était à cause de notre système fiscal. Voilà pourquoi notre gouvernement, il y a quelques temps, à travers le ministre, le ministère du Commerce extérieur, et celui des Finances, notre gouvernement est en train de réformer le système fiscal. Pas plus qu'il y a 2 semaines, nous avons adopté à Conseil des ministres la suppression de 14 taxes et le rabattement d'une vingtaine de taxes. Les gens vont dire, mais vous supprimez 14 taxes seulement, alors qu'il fallait en supprimer des milliers et des milliers. Je voudrais dire que c'est un processus qui a commencé au niveau du ministère du Commerce extérieur et qui va se poursuivre par le ministère des Finances pour la suppression de toutes les taxes qui rendent effectivement notre économie moins compétitive par rapport aux pays qui nous entourent. Vous vous rendrez compte que beaucoup de fraudes sont faites parce que tout simplement nos taxes sont tellement supérieures que les gens préfèrent passer par des petites voies et aller exporter nos produits à partir de l'extérieur. C'est ainsi que les pays comme l'Ouganda, comme le Rwanda, etc., sont exportateurs de produits dont ils ne sont pas producteurs parce que ces pays y arrivent sous la forme de la fraude. Et donc, notre gouvernement a pris conscience de cela. On est en train de supprimer un ensemble de textes pour rendre notre économie compétitive que nos produits, lorsqu'ils sont exportés, et ils coûtent moins cher et donc cela va permettre à ceux qui veulent investir de venir. Donc ça, c'est la plus grande chose que je voudrais annoncer ici et maintenant pour dire que le gouvernement s'est engagé désormais vers la suppression de toutes ces taxes qui constituent en fait une sorte de taxes toxiques et qui rendent finalement l'environnement des affaires en RDC beaucoup plus polluant et cela ne permet pas aux gens de venir. Les gens préfèrent aller s'installer dans les pays voisins, y produire et commencer à ramener les mêmes produits vers notre pays. On a pris conscience de cela et donc la population peut se rassurer que cette prise de conscience est à l'origine de plusieurs réformes que nous sommes en train de faire. Donc le coton et tous les produits qui partent en Ouganda feront l'objet demain d'une transformation au niveau local. Bien sûr, il y a des défis comme celui de l'énergie, celui des infrastructures qui sont aussi contenus dans notre plan directeur d'industrialisation. Lorsque vous lisez ce plan, vous voyez qu'on a tenu compte de tous les défis au niveau infrastructurel, au niveau énergétique, au niveau ferroviaire, au niveau portuaire, au niveau aéroportuaire, qui permettraient, lorsqu'ils sont adressés, eh bien, on va petit à petit améliorer notre climat des affaires et ainsi rendre notre pays beaucoup plus attractif. Et c'est un long processus. Comme je l'ai dit, ça ne se fait pas comme par un coup de baguette magique. On a déjà commencé. L'horizon 2030, l'horizon 2035, l'horizon 2040 nous attendent. Ceux qui seront là, au moins, ils sauront qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place, qui ont été lancées. Parce qu'aujourd'hui, si les pays sont développés, ils ne se sont pas développés par coup de baguette magique. Ils ont commencé leurs politiques publiques, ils les ont mises en œuvre et petit à petit, ils ont commencé maintenant à montrer à l'opinion ce qu'ils sont. Donc je voudrais vraiment rassurer notre opinion que le gouvernement congolais s'attelle à rencontrer toutes les préoccupations telles que soulevées par les auditeurs de tout à l'heure.
Et on a appris aussi qu'il y a la corruption qui constitue un frein. Vous voyez un opérateur économique qui vient, un investisseur qui arrive au pays, et puis bon, le ministre du secteur envoie son conseiller lui dire « Bon, avant toute chose, il faut me donner 40% de l'investissement. » Et c'est comme ça qu'on a fait fuir beaucoup d'investisseurs qui sont allés dans les pays limitrophes.
Oui, bon, c'est des pratiques qui ne sont pas officielles, qui... effectivement, on fait fuir beaucoup de gens, nous en avons appris aussi, mais je voudrais rassurer tous les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, que la porte d'entrée aujourd'hui des investissements dans le cadre de l'industrialisation ou de la réindustrialisation du pays, c'est le ministère de l'Industrie. Je voudrais mettre à défi quiconque arriverait au ministère de l'Industrie et constaterait ce genre de pratiques. Donc il faudrait que les gens comprennent que les choses sont en train de changer. Et nous sommes là pour apporter une nouvelle philosophie de travail dans un nouvel environnement pour faciliter effectivement que et les nationaux et les internationaux, à travers le gouvernement Samalou Kondé, se sentent sécurisés par l'ensemble des membres du gouvernement et que des pratiques, j'ai dit, de crier des corruptions n'existent plus et que vraiment la porte d'entrée qui est la mienne accueillerait tout le monde qui viendrait et mettrait au défi tous ceux qui pensent qu'ils peuvent encore se faire ponctionner ça et là par l'un ou l'autre collaborateur.
Bien, on va accueillir Charles Kisimba de Lumbashi et Dieu merci depuis Arou. Comment promouvoir l'industrialisation de la RDC? On en parle avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kaungia. Charles Kisimba, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à M. Julien Paluku.
Quelle est votre préoccupation?
Moi, je pense qu'il venait de dire tantôt là que c'est toute une prévision dans 5, dans 10 ans. Mais dans ces pays, nous nous rendons compte que dès qu'un gouvernement passe, tout passe. C'est devenu un principe ici chez nous. Et vous verrez que même à la fin de ce régime, M. Julien Paluku ne sera pas visible sur la rue. Et même tous les projets là vont disparaître. Alors, on ne sait pas. Est-ce que après même les régimes, au cas où les régimes, ça s'est terminé. Est-ce que de tels avancements, de tels projets-là vont-ils continuer ou pas? Il y a quelques jours, il nous disait par rapport à l'industrialisation du manioc. Est-ce que, où en sommes-nous avec ces projets-là? Il a encore dit par rapport au manioc. On ne sait pas si on a déjà commencé ou on n'a pas encore commencé. Si on n'a pas encore commencé, ça va commencer quand... quand est-ce que ça va commencer exactement?
Vous voulez parler donc, de la fabrication de pain à base de la farine de manioc?
À base de la farine de manioc, bien sûr. Mais on ne sait pas si, monsieur le ministre, ils ont déjà commencé ces projets-là ou c'est encore toujours dans les tiroirs. C'est ce que nous voulons un peu savoir.
Merci. Dieu merci de Harou. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Dieu merci à Lundru, au Pia, à Arou, à Nitouri.
Quelle est votre question?
J'ai des questions pour notre invité, monsieur le ministre. Pourquoi oublier toujours Arou? Si je prends, le ministre a cité les produits agricoles. Beaucoup ici. Ici, à Arou, il y en a aussi. Par exemple, si nous prenons les arachides. Les Ougandais viennent acheter nos arachides ici, avec des prix trop bas, même avec leur propre argent. Ici, à Arou, nous utilisons les shillings ougandais. Vous voyez, ils manipulent les Congolais, nos vieux et nos pères, leur dos va bientôt. Je sais pas le terme, mais qu'est-ce que je vais placer? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire là? Quelle politique là? Si nous voyons, par exemple, ici à Arioara, ici, il y a des commerçants, des hommes là, qui investissent leur argent dans les produits. Des champs pour produire les produits les quoi là. Alors ces commerçants là, ils nous disent que le problème d'Arou c'est seulement le problème de l'énergie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse industrialiser aussi Arou? Parce que s'il y avait de l'énergie ici à Arou, vous verrez qu'il y a des hommes d'affaires qui ont vraiment des moyens pour donner quelque chose à la population. Faute de l'énergie alors ils sont bloqués. C'est ça ce qui nous avons fait nos monitoring au niveau du terrain. Alors, autre problème, le ministre a cité des produits là. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi donner merci aussi pour lui parce qu'il a dit qu'on va faire selon les horizons. Là, c'est aussi une bonne politique. Alors, quand quand il va maintenant planifier de telles choses, il faut que la personne qui viendra après lui ne puisse pas changer les idées qu'ils avaient déjà plantées. Vraiment, nous prions beaucoup que les ministres, vraiment, en tout cas, s'il y avait des gouvernements qui viendront par après, il ne fallait pas vraiment changer ces ministres. Parce qu'il a vraiment parlé des choses là, vraiment réelles, qui touchent même la population. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Allez voir vraiment, avec notre richesse, les Ougandais proches ici se développent de jour au jour. Qu'est-ce que nous allons faire vraiment?
Donc, les Ougandais viennent acheter les arachides à Arou, ils les ramènent, ils les transforment et viennent vous les revendre.
Exactement, vraiment, monsieur Jody.
D'accord. Merci beaucoup. Merci depuis Arou, on a compris. Monsieur le ministre Julien Paluku.
Oui, je voudrais dire à mon frère Charles Kissimba et à Dieu merci et qui sont intervenus que, comme je connais très bien la région des Grands Lacs, je connais plus ou moins chaque pays, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, je les ai étudiés et je connais l'évolution de chaque pays, d'où est-il venu et où est-il aujourd'hui. En Ouganda, qui aujourd'hui constitue l'exemple cité par nombre de nos auditeurs, le président Museveni a pris le pouvoir en 1986. Ça fait aujourd'hui 36 ans. Que, évidemment, ce pouvoir existe et que c'est il y a 3, 4, 5 ans qu'on est en train de voir les choses changer en Ouganda. Donc, ça veut dire que les politiques publiques, lorsqu'elles sont mises en place, elles ne produisent pas les résultats à la prise du pouvoir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une théorie qui dit les hommes passent, mais les institutions restent. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas lié à notre personne. C'est lié à l'institution gouvernement, pilotée par Sam Alukonde lui-même, et que donc les politiques publiques que nous mettons en place vont rester au-delà de notre existence comme membre du gouvernement. Parce que même les zones économiques spéciales dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas l'œuvre de Julien Paluku. Je dois être scientifiquement honnête que les zones économiques spéciales, c'est une politique qui date de 2012. Ça fait 10 ans que cette politique n'avait jamais réussi à être correctement mise en œuvre. Et donc, nous aussi, nous venons prendre une partie de ce que nous mettons en œuvre pour montrer à l'opinion que la mise en œuvre de cette stratégie est possible. Et donc, après nous, d'autres viendront aussi continuer. Alors, s'agissant particulièrement du manioc qui a été cité tout à l'heure, on en avait parlé il y a quelques temps, je voudrais confirmer que nous avons déjà commencé à travers certaines structures, la transformation de la farine panifiable du manioc pour l'insérer dans la production du pain et des produits de pâtisserie. L'IITA, l'Institut international d'agriculture tropicale, qui est basé à Bukavu, a déjà commencé à produire le manioc. L'Université de Kinshasa a déjà commencé à produire la farine panifiable du manioc. Dans le Congo central, on a déjà commencé à produire la farine panifiable du manioc. Dans les prochains jours, ce sont les grands producteurs à Kinshasa et partout ailleurs qui seront conviés dans un atelier pour les associer effectivement à la production de cette farine panifiable du manioc pour réduire la facture d'importation du blé. Donc ce n'est pas des théories, c'est des choses que nous vivons et ceux qui veulent, ils peuvent s'adresser au ministère de l'Industrie qui va les orienter où peut-on commencer à consommer les pains à base de la farine panifiable du manioc, les gâteaux, les cakes, les spaghettis, fait avec la farine du manioc. Donc, on a déjà commencé, mais nous devons étendre l'expérience sur l'ensemble du territoire national pour stimuler la production du manioc et ainsi permettre que nous puissions, demain, peut-être dans les 5-10 ans, commencer à être les exportateurs de la farine panifiable du manioc, d'abord sur l'ensemble du continent africain, pour que nous puissions consommer un produit africain à insérer dans la farine disons dans la fabrication du pain et des produits de pâtisserie. Donc vraiment, au niveau du ministère et celui de l'agriculture, nous avons reçu le quitus du premier ministre Sam Alukonde pour que chaque filière, telle que je les ai citées là-bas, puisse être industrialisée, puisse subir la transformation et que dans un horizon beaucoup plus proche, les gens commencent à voir les retombées des politiques industrielles. Ce n'est pas facile de devoir piloter cet ensemble de programmes, mais c'est possible parce que nous y sommes déjà et il faudrait que les gens nous observent. Donc, en conclusion, ce que nous le faisons sur base des politiques publiques qui sont mises en place et les gens qui viendront après nous vont trouver déjà les fondamentaux construits et ils n'auront pas de difficultés à poursuivre les politiques publiques que nous aurons mises en place. C'est comme ça que fonctionne un État. En fait, les gens ont connu les États en déliquescence où au départ de chaque ministre, eh bien, tous les projets qu'il avait initiés étaient tombés à presque caduc.
Oui.
Mais avec ce que nous faisons aujourd'hui, nous continuons à construire les fondamentaux sur base desquels les successeurs vont devoir se baser pour poursuivre ce que nous avons commencé, parce que ce n'est pas lié à la personne de Julien Paluku, mais c'est lié à l'institution gouvernement. Voilà la précision que je voudrais apporter.
Bien, et puis Dieu merci, s'étonne pourquoi Ariwara sont oubliés, d'après lui.
Non, moi je pense que on prend bonne note de cette révélation de M. Dieu merci de Haru. Je comprends que il faut industrialiser la filière arachide dans la partie Haru pour que notre arachide cesse d'être exporté vers l'Ouganda et nous être ramené sous forme d'huile d'arachide. Donc c'est une bonne contribution de notre compatriote Dieu merci de Haru. Je crois que nous avons pris bonne note et le cabinet qui me suit certainement va devoir insérer cela dans la programmation prochaine.
Bien, on va accueillir Gaston de Kinshasa et Madame Claudia de Kolwezi. Nous parlons de la promotion de l'industrialisation en RDC. Gaston, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'industrialisation?
Voilà.
Non. On vous écoute, on vous entend pas bien, il y a un souci au niveau de la liaison téléphonique. Je peux vous demander de vous déplacer, peut-être que ça peut améliorer les choses. C'est fait? Bon, il n'est pas toujours là. On va accueillir Madame Claudia et puis je vais revenir à Gaston tout à l'heure. Madame Claudia de Kolwezi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Daniel. Bonjour, l'excellent.
Bonjour.
Je pense que du coup, ce qu'il y a comme industrie à promouvoir dans notre pays, ce qui est en urgence et ce qui peut être une priorité, c'est le secteur de l'agriculture. Parce que, en fait, dans notre pays, il y a des millions de personnes qui sont en situation de crise alimentaire. Et il faut vraiment attendre qu'on commence à dénombrer des morts dues à la crise d'alimentation pour promouvoir le secteur agricole. Et je voudrais un peu demander à l'excellence, Julien Paluku, s'il peut vraiment nous promettre et nous rassurer que pendant son mandat, il va vraiment s'investir dans le secteur agricole.
Bien.
Et pour finir, je voulais savoir, j'étais passé il y a presque une année sur les zones de Okapi Service pour nous parler de l'industrie de la fabrication des batteries électriques. Alors je voulais savoir la suite. Il n'est jamais passé pour nous donner une restitution. Je voulais savoir comment ça évolue.
Voilà, la fabrication des batteries électriques. Merci. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Maître Gaston, vous êtes là? Il n'est plus là, dommage. Il y a des soucis au niveau de la communication, de la liaison téléphonique. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Oui, je voudrais remercier Madame Claudia de Kolwezi, je pense.
Oui, oui.
Qui a dit, l'agriculture, c'est la base, il faudrait qu'on puisse la considérer comme une priorité. Effectivement. Lorsque vous voyez toutes les théories qui sont citées ça et là, on dit que nous avons 80 millions de terres, d'hectares de terres arables, mais nous continuons à importer des produits agricoles. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Le ministère de l'Agriculture a pu réaliser les états généraux pour identifier tous les bassins de production agricole et ainsi susciter le financement de ces bassins-là. La deuxième précision que je voudrais apporter, c'est que le gouvernement ne crée pas des industries, où le gouvernement ne finance pas à lui-même les industries. Le gouvernement crée des conditions favorables d'attraction des investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué ici la suppression d'un ensemble de taxes. Donc, l'appel que je voudrais lancer, c'est aussi en direction de nos opérateurs économiques. Beaucoup d'opérateurs économiques de la RDC s'investissent plus dans les importations que dans la transformation des produits qu'ils importent de la Chine, de Dubaï, etc. Donc l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques, c'est de dire l'environnement économique est en train de changer, l'environnement des affaires est en train de changer, on est en train d'enlever toutes les taxes toxiques qui les amenaient peut-être à fuir l'environnement congolais. C'est le moment d'investir les capitaux dans les pays. Imaginez-vous, vous importez des conteneurs chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre, autant de millions de dollars que vous amenez en Chine, que vous amenez à Dubaï, que vous amenez à Malaisie. Vous êtes en train d'aller créer la richesse chez autrui, vous créez de l'emploi chez autrui, alors que chez vous, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de richesse, et on jette l'anathème sur le gouvernement pour dire le gouvernement ne fait rien. Donc, pour le gouvernement, nous créons des conditions favorables à l'investissement pour permettre que les investisseurs nationaux et étrangers viennent investir, ils créent de l'emploi chez eux, ils créent la richesse chez eux, et l'État fonctionne, des taxes comme la TVA, des impôts comme les impôts sur les bénéfices, etc., et ainsi raconter les besoins de la population. Donc, ce ne sont pas des promesses que nous faisons. Nous voudrions qu'il y ait une symbiose entre gouvernement et ses opérateurs économiques, et c'est le sens de notre collaboration d'ailleurs avec la Fédération des entreprises du Congo, à laquelle j'ai adressé une lettre pour dire « Je suis en train de constater que dans les zones économiques spéciales, il n'y a que des investisseurs étrangers qui s'intéressent à s'y installer. Et que demain, vous risquez d'avoir uniquement que des étrangers dans les zones économiques spéciales, alors que le marché est ouvert à tout le monde. Donc je voudrais vraiment inviter nos opérateurs économiques spéciales à nous emboîter les pas pour qu'ensemble, nous puissions développer notre propre économie, la rendre compétitive, la rendre résiliente. Je voudrais chuter par la question de Mme Claudia sur la question des batteries électriques. Là encore, je voudrais lui dire que nous sommes dans une expérience avec la Zambie et la zone économique spéciale que nous avons créée se trouve à Kipushi. C'est là où va fonctionner effectivement la première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques avant d'arriver à la production de voitures électriques made in Congo. Donc, ce n'est pas encore une promesse, mais c'est un projet qui est matérialisé par les deux États dans la perspective de la création d'une chaîne de valeur régionale pour attirer tous les pays, notamment le Gabon qui produit les manganèses, notamment le Madagascar qui produit le nickel, notamment la Tanzanie, le Mozambique et le Botswana qui produisent les graphites. Tout cela va nous rejoindre dans ce vaste projet pour que nous créions des grandes usines de fabrication de batteries électriques à l'instar de CATL, qui est le numéro un mondial chinois. C'est des choses que nous évoquons depuis un certain temps. Les gens les considèrent comme des théories, les gens les considèrent comme des vœux pieux, mais je voudrais rassurer l'opinion que d'ici 5-10 ans, eh bien, les gens parleront d'un gouvernement qui a jeté les bases d'une croissance économique en RDC à travers les différentes filières telles que je viens de les développer tout à l'heure.
Bien. Monsieur le ministre Julien Paluku Kaunga, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de la promotion de l'industrialisation en RDC. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.